Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous débattons de la légalisation à l'aide active à mourir que défend dans le journal du dimanche dernier, Olivier Falorni, député de Charente-Maritime. Nous parlions avec lui juste avant la pause des garde-fous qu'une loi instaurant l'euthanasie active, c'est-à-dire le fait qu'un tiers puisse donner la mort immédiatement à un malade souffrant gravement dont le sort est quasiment scellé, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est toujours très sensible. Claire Fourcade, vous êtes médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je voulais qu'on entende votre réponse à Olivier Falorni.
Alors, juste d'abord une réponse simple, c'est qu'il y a un article récent du British Medical Journal qui dit que 48% des euthanasies en Belgique ne sont pas déclarées. Donc la loi est absolument pas une garantie de suppression des euthanasies clandestines. Mais ce qui me paraît le plus important quand même, c'est de dire que chez nous, en France, il meurt chaque année 600 000 personnes. On évalue que sur ces 600 000 personnes, 300 000 auraient besoin de soins palliatifs et qu'actuellement, 200 000 d'entre elles n'y ont pas accès. 200 000 personnes chaque année n'ont pas accès aux soins palliatifs en France. Et pour moi, c'est là qu'est vraiment l'urgence. Alors nous, on se bat depuis 30 ans pour développer et on accompagne actuellement à peu près 100 000 personnes chaque année. Mais il y a encore 200 000 personnes. Il y a 26 départements dans lesquels il n'y a pas de service de soins palliatifs. Et il me semble que l'urgence absolue de solidarité de notre pays, elle est là. Elle est à ce que ces 200 000 personnes puissent être accompagnées correctement pour qu'on ne soit pas dans une situation d'un pays où on pense que parce qu'on ne pourra pas être accompagné dignement, parce qu'on ne pourra pas vivre dignement jusqu'à la fin, il vaut mieux mourir. Et ça, je suis entièrement d'accord là avec Olivier Falorni, ce n'est pas acceptable. Et qu'il me semble qu'on peut, en proposant un accompagnement à chacune des personnes qui en a besoin, éviter cette situation où on se dit « si j'étais dans un état de souffrance insupportable, je préférerais mourir. Moi, je préférerais que les gens soient soulagés ».
Alors moi j'aimerais qu'on écoute un avis maintenant, celui de Jonathan Denis de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Pour lui, les dérives, c'est une fausse excuse.
La loi, elle est là pour encadrer, pour protéger. C'est en l'absence de loi qu'il y a des dérives. Et les dérives, effectivement, elles n'existent pas chez nos voisins belges, par exemple, qui ont une loi depuis 20 ans. Elles existent chez nous. Vous avez des euthanasies clandestines qui existent en France. Alors, on peut penser que ce sont des médecins qui accompagnent effectivement jusqu'au bout. Sauf que vous avez, parmi ces euthanasies clandestines, des euthanasies qui sont pratiquées sur des personnes qui ne l'ont absolument pas demandé. Et ça, c'est scandaleux. Donc nous, on souhaite une loi qui soit faite à la demande du patient et qui replace vraiment le patient au centre. Donc, pour lutter contre les dérives qui existent chez nous, eh bien justement, faisons une loi qui encadre. Donc aujourd'hui, il faut effectivement que le gouvernement s'en saisisse. Il faut qu'Emmanuel Macron dise « on est prêt à aller plus loin » parce que c'est une demande largement majoritaire des Français depuis plus de 40 ans.
Emmanuel Macron, qui, on le rappelle, hein, avait déclaré pendant la dernière campagne présidentielle être favorable à ce que l'on évolue vers le modèle belge, donc ce qu'on légalise l'euthanasie active. Même s'il y a une loi, Emmanuel Hirsch, c'est très difficile d'encadrer, donc de s'assurer que le souffrant qui souhaite mettre fin à ses jours ait du discernement, qu'il n'y a pas de pression extérieure. C'est très difficile de savoir.
D'abord, je vais dans le sens de ce que Claire Fourcade a noté en ce qui concerne la Belgique, hein, puisque les déclarations se font a posteriori dans la commission de contrôle. Hein, il y a énormément, effectivement, d'analyses qui font apparaître que c'est pas parce que vous avez une loi que les choses, elles se sont véritablement régulées et que les gens qui sont euthanasiés le sont toujours d'une manière volontaire. J'incite les unes et les autres à regarder un petit peu sur les sites les réactions. Pour moi, la question importante, c'est d'abord de respecter les personnes dans une dimension d'intimité. Il n'y a pas un modèle du bon mourir. Et ce qui me paraît important d'un point de vue éthique, c'est déjà qu'on respecte les personnes lorsqu'elles sont atteintes d'une maladie grave sur leur volonté de vivre dignement, de vivre intensément leur existence en société et qu'on commence pas à considérer d'une manière un peu rapide qu'il y a des gens qui seraient indignes de vie. Ça a l'air de rien, mais c'est une question pour moi vraiment fondamentale. Ensuite, en ce qui concerne la législation, c'est effectivement avec une proposition de loi qui parle de liberté, hein, puisque c'est un des termes qui a été repris par Olivier Falorni. Dit, ce qui me semble quand même très très important de prendre en compte, c'est peut-être une réflexion, je sais que pour en avoir discuté avec Claire Fourcade, on n'est pas tout à fait en accord, c'est ce qu'on appelle l'exception d'euthanasie. Il y a probablement, quand vous parlez de circonstances comme ces euthanasies clandestines, pas uniquement clandestin comme si c'était quelque chose de dissimulé. C'est que dans certaines situations spécifiques, la seule réponse est l'assistance médicalisée. Et l'assistance médicalisée, ça peut être le suicide assisté et ça peut être certaines formes d'euthanasie. Vous savez, le comité consultatif national d'éthique va rendre début septembre un nouvel avis sur la fin de vie. Donc on aura l'occasion de revoir un peu le débat. Mais sachez qu'en 2000, le comité consultatif national d'éthique avait rendu un avis très très important, arrêt de vie, fin de vie, euthanasie, qui parlait de l'exception d'euthanasie. Alors c'est vrai que chaque fin de vie est exceptionnelle, mais est-ce que dans certaines circonstances exceptionnelles, et l'actualité nous a quelquefois éveillés à des circonstances exceptionnelles, la sollicitude, la bienveillance, la fraternité vis-à-vis d'une personne ne serait pas de lui apporter cette assistance. Là où il y a un vrai problème, c'est le problème de la médicalité de l'acte. Est-ce que c'est un acte médical ? Dans certains pays, regardez ce qui se passe en Suisse, puisque souvent on parle du modèle de l'assistance en fin de vie en Suisse, c'est pas le médecin qui pratique l'euthanasie. Pour moi, d'un point de vue déontologie, il faudrait qu'on soit très très clair, est-ce que c'est un acte médical ? Pour en discuter avec nombre de médecins, ils considèrent que c'est pas un acte médical, c'est un premier point, c'est un acte qui ne relève pas de la pratique médicale et du savoir médical. Et deuxième point, un certain nombre de médecins disent, si demain on avait une loi qui nous imposait à pratiquer l'euthanasie, on ne ferait plus de la médecine, parce que ça déroge à nos valeurs. Et c'est pas ces médecins-là qui abandonnent leurs patients quand ils souffrent. Un dernier point aussi à prendre en considération, c'est qu'il y a quand même une approche globale de la personne, c'est ce que font les soins palliatifs, comment éviter à la personne l'effroi, la douleur, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte. Et si on considère que la personne, au nom de son autonomie, souhaite véritablement abréger son existence, je ne suis pas totalement convaincu que c'est dans un texte de loi qu'on va véritablement répondre à cette attente. Aussi abrupte que je pose la question, je ne suis pas certain que ce soit la responsabilité d'une société que d'apporter la mort à une personne.
Olivier Falorni.
Claire Fourcade. Oui, sur la question d'une exception d'euthanasie, je voudrais juste apporter un témoignage là de médecin du quotidien. C'est-à-dire que je vois bien intellectuellement comme ça, c'est une solution qui pourrait paraître satisfaisante parce qu'elle permet effectivement de répondre à certaines situations difficiles. Il y a des situations difficiles, c'est compliqué l'accompagnement des personnes en fin de vie. Mais sauf que dans la vie quotidienne, dans la vraie vie, c'est moi qui dois aller dire à quelqu'un que sa fin de vie n'est pas exceptionnelle et que lui, c'est une mort ordinaire, tandis que d'autres auront droit à une mort exceptionnelle. Et ça, au quotidien, je pense que c'est extrêmement difficile à gérer parce que la mort de chacun, pour soi et pour ses proches, elle est exceptionnelle. Ça n'arrivera qu'une fois. C'est quelque chose de tout à fait singulier, de tout à fait particulier. Donc, c'est effectivement intellectuellement quelque chose qui peut sembler rassurant, mais je pense que dans la pratique quotidienne, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ensuite, si vous me laissez le temps, à moins qu'on y revienne plus tard, sur la place des soignants, plus largement que des médecins, j'aurais quelque chose à vous dire. Donc dites-moi si c'est le moment.
Allez-y, je vous en prie, Claire Fourcade.
Voilà. On a fait l'an dernier, je remercie pour ça Olivier Falorni, qui a été pour nous la proposition de loi du mois d'avril de 2021, nous a beaucoup mis en mouvement et en réflexion, et c'était important et c'était utile, je pense. Et donc, on a lancé une grande consultation auprès de l'ensemble des soignants de soins palliatifs, pas seulement les médecins, de tous les soignants. On a envoyé à tous les services de soins palliatifs de France une grande enquête pour leur demander si la loi devait évoluer, comment ils se positionnaient. Et on a eu des résultats qui nous ont beaucoup surpris. 96% de l'ensemble des soignants et 98% des médecins nous ont répondu qu'ils étaient opposés à l'euthanasie, c'est-à-dire une injection létale faite par un soignant et par un médecin en général. Oui. Donc, le fait que ce soit un soignant qui fasse l'injection, c'est 96% d'opposition du côté des soignants et 40% nous ont répondu qu'ils démissionneraient. Je pense que dans l'état où
on peut comprendre, c'est difficile de donner la mort à quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Pour n'importe qui, qu'on soit soignant ou non d'ailleurs.
La conclusion pour nous, c'est que donner la mort, ça ne peut pas être un soin. Alors effectivement, en Suisse, c'est quelque chose qui est interdit aux soignants. Il est interdit aux soignants de participer au suicide assisté. Donc peut-être que d'autres choses peuvent se réfléchir au niveau de notre société. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que donner la mort, ce n'est pas un soin. Et ça, je crois que pour l'ensemble des soignants qui sont concernés par l'action de la fin de vie au quotidien, c'est-à-dire ceux qui sont auprès des patients tous les jours, la position est quasiment unanime. Et il me semble que c'est quelque chose qui doit donner à réfléchir, parce que cette question préoccupe tous les Français. On est tous concernés par cette question de la fin de vie. Mais nous, soignants, avec les patients, on est impliqués. Et le fait d'être concerné ou impliqué, ça change un petit peu le regard. Et je crois que c'est important d'entendre aussi ce que tous ces soignants disent de leur pratique quotidienne.
Alors voilà, l'exemple suisse que vous évoquiez, Claire Fourcade, c'est donc la différence entre l'euthanasie active, à savoir qu'un tiers injecte une substance mortelle à un malade pour abréger immédiatement sa vie, et le suicide assisté. C'est ce que vous évoquiez en Suisse, les soignants n'ont pas le droit d'injecter une substance létale, on donne une substance mortelle à un malade afin que ce dernier se suicide. C'est là qu'on parle de suicide assisté. Olivier Falorni, quelle est votre position ?
Ce n'est pas du soignant ni milieu de soins, hein. C'est important. Ça se fait en dehors du milieu de soins.
Ça se fait en dehors du milieu de soins, oui, pardon, exactement. Mais c'est bon. La substance mortelle, voilà, est donnée au malade et c'est lui donc qui décide de se suicider. Olivier Falorni, j'aimerais connaître votre avis sur ce point très précis, le suicide assisté.
Alors, pour reprendre votre question, d'abord, la loi que je propose s'inspire très clairement du modèle belge.
Belge et pas suisse, hein ?
Et non pas suisse. Je veux simplement revenir sur ce qu'a dit Claire Fourcade, qui fait référence à une enquête qu'elle a faite auprès des soignants en soins palliatifs. J'entends ce qu'elle dit. Alors, dans ce cas-là, il faut aussi que, et je le redis, hein, j'ai une admiration immense pour les soignants en soins palliatifs, immense. Je me suis battu, je vous l'ai dit, pour la création d'une unité de soins palliatifs sur mon territoire. Mais en revanche, on ne peut pas dire dans ce cas-là que, vous avez dit, 96% des soignants en soins palliatifs sont contre l'euthanasie et mettre de côté les enquêtes d'opinion qui régulièrement disent que 9 Français sur 10 sont favorables à la légalisation de l'euthanasie.
C'est difficile de donner des sondages bruts comme ça, parce que ce n'est pas une situation à laquelle on se retrouve confronté tout le temps. Je voudrais que vous répondiez sur le suicide assisté, s'il vous plaît, Olivier Falorni.
Oui, mais je voudrais quand même dire que nous légiférons et nous parlons d'une question de société qui s'adresse à tous les Français et au choix d'un malade en fin de vie. Et ne pas se limiter uniquement aux soins palliatifs ne voudrait pas dire on vous laisse vous seul et on vous abandonne. Le suicide assisté peut être une solution, comme l'euthanasie, mais dans le texte que je propose, le médecin accomplit l'acte ou donne le produit létal au malade s'il peut accomplir le geste sous la forme d'un suicide assisté, et le texte prévoit une clause de conscience, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'avortement, une clause de conscience avec la seule obligation pour ce médecin qui refuserait de pratiquer une euthanasie de renvoyer vers un autre médecin qui lui l'accepterait.
Merci Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, rapporteur général de la proposition de loi sur la fin de vie. Merci Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Merci Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay. Je renvoie nos auditeurs vers vos ouvrages. Faut-il autoriser l'euthanasie pour les nuls aux éditions First. Et Vincent Lambert, une mort exemplaire pour l'interrogation. C'est aux éditions du CERF. Merci à tous les trois. Excellente soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'Europe 1. À demain.